France Culture.
À voix nue, production Corinne Renoux-Nativelle, cette semaine avec...
Jean-Paul Dubois, j'écris des livres le moins souvent possible.
Premier épisode, l'origine de la mélancolie. Bonsoir Jean-Paul Dubois.
Bonsoir.
Dans le milieu littéraire, vous occupez une place à part. À part géographiquement, ce qui est tout relatif, vous n'habitez pas Paris mais Toulouse. À part surtout parce que contrairement à la plupart de vos sœurs et frères de plume, vous ne parlez pas de votre besoin d'écrire, vous ne sacralisez pas l'écriture qui doit passer après la vie. Pourtant, vous vous êtes installé dans les rayons des librairies et des bibliothèques avec une bonne vingtaine de romans, couronnés de 2 prix prestigieux, le Fémina en 2004 pour Une vie française et le Goncourt en 2019 pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Vos lecteurs, nous vos lecteurs, nous attendons avec impatience chacun de vos romans pour leur mélancolie élégante, leur dérision légère et leur érudition discrète. Dans un style limpide, vous déployez de livre en livre un univers reconnaissable, avec ses narrateurs prénommés Paul et quelques marottes, dont les tondeuses, les morts brutales et la compagnie des chiens. Et pourtant, vous nous surprenez à chaque nouveau roman. Il y a un humanisme à la Jean-Paul Dubois, fait d'un regard délicat et fraternel sur vos héros de papier. C'est par le journalisme que vous avez commencé à écrire. Vous avez fait vos débuts à Sud-Ouest avant de rejoindre Le Matin de Paris puis Le Nouvel Observateur. Vous avez quitté le journalisme dès que l'écriture des livres vous a apporté la liberté de ne plus être salarié. Car vous avez un credo autour duquel vous avez bâti votre existence, être seul propriétaire de votre temps. C'est le vrai luxe dont vous avez fait le pivot de votre vie. C'est avec un grand plaisir que nous allons partager un peu de votre temps tout au long de cette semaine. Vous nous recevez dans votre maison de Toulouse, une vaste maison pleine d'objets foisonnants. Pouvez-vous nous la décrire ?
C'est une ancienne ferme qui a été agrandie, j'imagine, au fur et à mesure de la réussite des gens qui faisaient du maraîchage. Et c'est une maison qui ressemble pas à grand-chose, mais moi je l'ai toujours connue, donc vous la décrire est un truc qui est très compliqué. Moi je ne la vois que de l'intérieur, déjà. C'est une maison... Il y a eu aucune naissance et il n'y a eu que des morts dans cette maison. C'est pas une maison dans laquelle j'aurais choisi de vivre si j'avais eu d'autres choix, mais la chance a fait que j'ai pu quand même y vivre. C'est une maison qui est lourde, voilà, à tous les sens du terme. C'est une maison qui a de la mémoire, qui a de la force, qui a de l'inertie, qui est compliquée. Mais c'est la mienne, donc la mienne, c'est pas la mienne. Voilà, le problème aussi, c'est que c'est pas ma maison. Je vis dans la maison, quasiment dans les meubles de mes parents. C'est un truc, arrivé à mon âge, c'est une quand même marque d'immaturité assez singulière. Dans chaque pièce, il y a des gens, et des gens qui sont morts ici, quoi. Et j'ai ça dans la tête tout le temps. Ça influe, comme je fais toujours les livres ici, ça influe évidemment sur le climat, sans doute. J'ai jamais pu faire un livre. J'ai eu 2 maisons dans ma vie. Celle que j'ai construite, la mienne, que je n'habite plus, et celle-ci, dans laquelle je suis quasiment né. Et les premiers livres que j'ai faits, je les ai faits dans ma première maison. C'est des livres qui sont légers, gais, drôles, sarcastiques, presque parfois méchants et tout. C'est des livres pleins de vie. Et les livres que j'ai faits ici sont d'une noirceur, d'une sombritude, comme dirait Madame Royal. Je pense que c'est une maison qui influe sur le mental des gens qui l'habitent. Je ne sais pas si un type neutre s'installer ici, ce qui arriverait, comment il vivrait ça. Est-ce qu'une maison peut se faire oublier? Moi, j'ai du mal à le croire, mais bon. Le fauteuil qui est là, c'était le fauteuil dans lequel mon père écoutait la musique le dimanche dans son bureau. Tout est là, chaque truc me raconte une histoire. C'est bizarre, c'est émouvant, parfois, et c'est pesant aussi, la nuit.
Et cette maison, elle a appartenu à qui? À vos grands-parents, avant vos parents?
Non, elle a appartenu à mes parents. quand j'étais tout petit, ils ont acheté cette maison. Et la seule chose que je connaisse, j'étais vraiment enfant, c'est que la dame qui a vendu cette maison a dit à mon père, est-ce que vous êtes sûr que... Parce qu'à l'époque, je crois que les achats ne se faisaient pas par chèque. C'était un argent liquide. Et je me souviens de la phrase qu'il m'a toujours racontée, est-ce que vous êtes sûr que l'argent que vous me donnez n'est pas celui du rapt du petit Peugeot ? Le fils de Peugeot avait été à l'époque enlevé, et cette dame avait la crainte absolue que mon père paye cette maison avec le rap, l'argent du rap du petit Peugeot. Donc voilà ma première rencontre avec la maison. Mais j'en suis parti pour me fabriquer, moi, ma maison.
Voilà. Et vous y êtes revenu depuis combien de temps ?
Ici ?
Oui.
25 ans. J'ai passé 30 ans dans ma maison. C'était bien. Puis comme je l'avais faite, voilà, le problème d'une maison avec moi, je peux pas habiter une maison si je ne la connais pas comme ma poche. C'est-à-dire, il faut que je puisse la réparer de A à Z, du plafond à l'électricité, plomberie. Tout ce qui fait une maison, il faut que j'en sois le garant, le gestionnaire, le type qui fait l'entretien. Il faut que je l'ai en main. Ici, je suis quasiment dépassé, mais j'arrive encore à tenir le coup. Dans ma première maison, il y avait rien d'inutile. C'était intime. Mes enfants ont grandi dedans. Mes chiens, ils ont vécu. C'était une maison qui a grandi avec moi, que j'ai faite en 2-3 fois. C'est des agrandissements. C'était un monde qui grandissait avec moi.
Et pour revenir à vos parents, est-ce que vous pouvez nous parler d'eux, Jean-Paul Dubois ?
J'aime pas parler de mes parents parce qu'ils sont morts. Dans une chambre qui est au-dessus, mon père écrivait des trucs. Il avait une troupe de théâtre avec ses copains. Et il avait fait une pièce qui s'appelait « Il pleuvra des roses ». Et à la fin, il devait y avoir sur la dernière réplique « Il pleuvra des roses », une pluie de roses qui tombait des cintres, comme ça, sous les applaudissements d'un public ébahi. Mais ce soir-là, il avait préparé le réceptacle, qui était une toile dans laquelle il y avait des milliers de pétales de roses. Et c'était suspendu. Malheureusement, dans la nuit, il a plu et l'humidité s'est amassée dans les roses. Et à la fin de la représentation, le type dit « Et il pleuvra des roses ». Et à ce moment-là, tombe sur lui un bloc de pétales de roses, mais solide. Et la carrière de théâtre, mon père, je crois, s'est arrêtée là. Il avait une passion, c'est la musique qu'il m'a transmise. Il a eu un studio d'enregistrement. J'étais extrêmement heureux quand j'y allais. Il m'a dit, et je le crois, qu'il avait enregistré un disque de Django Reinhardt. C'était Place du Puy à Toulouse. C'était un endroit... Alors là, il y avait des consoles, il y avait des micros, il y avait le piano qui est dans le salon là-bas. C'est un vrai un gros studio d'enregistrement qui était, pour moi, qui me paraissait gigantesque, avec des tables mixage et consoles, enfin des trucs. Et j'adorais ça, et j'adorais voir ce truc-là. Après, mon père était un original. Dans la chambre, il y a une malle de textes. Je ne les ai jamais ouverts. J'ai l'impression de fouiller les poches et la tête de mon père, quoi. C'est un truc qui se fait pas, je peux pas. Et raconter sa vie, c'est pareil. Là. C'était un type original qui était compliqué, difficile à vivre pour moi. Je pense gentil, mais incapable de le communiquer. Ma mère était l'inverse. C'était une femme... douce, adorable, issue d'un milieu très pauvre, puisque mon grand-père était berger et ma grand-mère vendait des légumes sur un marché à Toulouse avec une voiture à bras. Et la famille de mon père, c'était l'inverse. C'est une famille où les gens étaient fiers de ne jamais avoir travaillé et avoir des terres qui permettaient de les faire vivre. Donc c'est des mondes qui n'étaient pas miscibles, qui ne se parlaient pas, qui ne se voyaient pas. Je sais pas, j'ai jamais aimé ça. Vous sentez ça, quoi, quand vous êtes gosse, qu'il y a deux classes sociales dans la vie. Il y a les patrons et les autres.
Et vous aviez les deux classes à la maison, Jean-Paul Dubois ?
Ouais, j'avais les deux classes à la maison, sauf que mon père était pas... Il était issu de ce monde-là et il en avait certaines attitudes. Mais ma mère était une femme qui était tellement moderne... qui s'en foutait complètement, tout ça, qui avait le sens. Je crois que tout ce que j'ai appris d'important dans ma vie, y compris, j'ai inclus la scolarité, la fac, tout. C'est ma mère qui me l'a dit. Elle m'a dit une dizaine de trucs et je ne les ai jamais oubliés. Je crois que c'est la chose qui vous structure, quoi. Il y a un dressage quand vous êtes chez vos parents. Il y a deux dressages, quoi, dans la vie. Il y a le dressage affectif qui est chez vos parents et il y a le dressage scolaire qui est l'apprentissage de ce que vous allez devoir subir dans une société. Moi, dans le dressage familial, j'ai eu la chance d'avoir cette femme exceptionnelle qui savait dire les choses très simplement et qui vous marquait à vie. Voilà. Je vous dirai pas lesquelles.
Non, c'est ce que j'allais vous demander.
Mais c'est basé sur le... D'abord, le respect des autres. Voilà. Sur la douceur. Jamais de violence. Jamais de... Je sais pas comment expliquer ça. Ce sont des choses dans lesquelles vous... C'est des vêtements dans lesquels vous vous sentez, le premier jour où vous les mettez, à l'aise. Voilà. Vous êtes bien là-dedans et vous comprenez que vous allez porter ça toute votre vie parce que c'est plus simple. Parce que c'est même pas une question de morale. Bien sûr, il y a de la morale. Mais elle n'est pas corsetée, quoi. Donc, c'est des parents assez étranges. Il y a un épisode aussi qui est marquant, sans doute le plus marquant de tous, c'est le jour où ma mère est venue me voir. J'avais 8 ans. Elle me dit, à partir de moment, il faut que je te dise. J'étais fils unique, ma mère était seule. Avec mon père, elle me dit, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu sois très doux et très gentil avec ton père. Il était cardiaque. Et elle me dit, on sort de chez le médecin, il nous a dit que la moindre contrariété pouvait le tuer. Alors, je lui ai vachement voulu qu'elle me dise un truc comme ça à 8 ans. On ne dit pas une chose comme ça. Mais d'un autre côté, elle était tellement seule. J'étais le seul type à qui elle pouvait dire ça. C'est aussi une marque de confiance, mais c'est une terreur, quoi. C'est-à-dire, moi, la nuit, je me levais pour voir si mon père respirait. À 8 ans, c'est pas normal. C'est pas normal de vivre, de regarder son père à chaque instant à la table quand il commence à tousser. Je veux dire, c'est peut-être la dernière canne, c'est peut-être, il va mourir cette nuit, il va mourir ça. J'ai appris l'instantanéité, la fragilité de la vie et la menace permanente. De Fontenay raconte ça quand elle parle d'éthologie à propos des animaux sauvages. C'est un truc qui ne m'a jamais quitté, ça non plus. Qui dit que les bêtes dans une forêt vivent et quasiment ne dorment jamais parce que la nuit, elles pensent que le prédateur est là, qu'il peut surgir à tout instant, qu'on ne sait pas quand, qu'on ne le connaît pas, qu'on ne même pas formulé le mot prédateur, mais qui vivent avec cette crainte. Voilà. Et à 8 ans, j'ai su ce qu'était la vie d'un animal dans la forêt, c'est-à-dire vivre avec la crainte de l'imminence, d'un truc qui va arriver. Et ça aussi, c'est formateur, c'est pas innocent. Alors j'en ai vachement voulu à ma mère, surtout quand j'étais en colère, mais... Je pense que c'est une forme de maturité avancée qu'elle m'a offerte. Parce que c'est bien. Je trouve que c'est bien de savoir ça, de savoir que la mort est là, qu'elle rôde. Après, il faut vivre avec. Et on a inventé des psychanalystes pour ça, mais moi, j'ai des chiens. J'ai des chiens auxquels je parle. C'est mes frères, c'était mes petits frères. Donc, je m'étais fait un monde avec eux. Chacun se débrouille avec les moyens qu'il a.
Jean-Paul Dubois, donc vous naissez le 20 février 1950 à Toulouse. Quel enfant étiez-vous ?
J'étais un imbécile. Je crois que j'étais. J'ai peut-être pas cessé de l'être. Mon père m'avait donné un surnom, c'était Grand Bête Écoutordu. Voilà, il m'appelait. Tu viens, Grand Bête Écoutordu ? Mais mon père était un type qui avait des saillies comme ça. Il rentrait dans une pièce, je le raconte dans des livres. Charles Leroy, notre empereur, Magne, Satan tout plein, est resté en Espagne et refermait la porte. Et j'ai vécu comme ça avec des saillies, parce qu'il était obsédé par les Alexandrins. Il m'a fait toute mon enfance. C'était Rostand, c'était Hugo. Alors Rostand et Hugo, c'était la Rolls. Après, il y a eu Guitry. Il vivait avec ce monde-là, les hémistiches, tout cet univers. J'étais un enfant qui était inapproprié, absolument pas fait pour vivre cet univers-là. J'étais un type, comme tous les gens de ma génération, qui ont vécu la cassure d'un monde. Moi, elle s'est faite dans ma famille, parce que mes parents étaient quand même assez âgés quand je suis né. Et ils appartenaient à un monde, sauf peut-être ma mère. Mais Je ne sais pas, si mon père avait eu un bonobo, je pense qu'il aurait été pas plus à l'aise avec lui qu'avec moi, quoi. On n'appartenait pas au même monde, on voyait pas les choses de la même façon. Puis il y a eu la rupture sociologique, la rupture religieuse. Il y a une rupture colossale, là, tout d'un coup, la religion a complètement disparu. Mes parents n'étaient pas des religieux forcenés, mais bon, c'était des catholiques. Moi, il y a une énorme rupture. Donc, l'enfant que j'étais était un type mal à l'aise dans le monde dans lequel il vivait, ne comprenant pas ce qu'on lui disait, ni à la maison, ni à l'école. Donc, j'étais une pièce rapportée, une sorte de migrant, un migrant d'époque. Un type qui est là et qui sait pas ce qu'il a à faire là. Tout ce qu'on me racontait me paraissait fou. L'éducation familiale était celle de l'époque. L'éducation religieuse, puisque j'ai été élevé en partie chez les frères et les jésuites, après ils m'ont foutu dehors, ils sont devenus plus raisonnables que mes parents. Ça tenait pas debout, quoi, l'Immaculée Conception. À 8 ans ou 10 ans, quand on vous raconte des trucs comme ça, ou 7 ans, l'Immaculée Conception, le mystère de la Trinité, le don d'ubiquité, le Père qui laisse mourir le Fils parce qu'il l'aime. Et c'est une religion, j'ai dit, mais le mec a fait le scénario, c'est un type, il travaillerait pas dans une série française aujourd'hui. Vouloir raconter des choses comme ça à des enfants, je me dis, il fallait qu'on soit des saints pour avaler ça. J'imaginais, quand j'allais au Caouzou, qui était l'école où était Villepin, où était des gens comme ça, un ancien ministre de la Santé, on nous disait de poser l'hostie sur la langue, mais surtout, ne la craquez jamais, vous pourriez faire souffrir notre Seigneur. Mais je comprenais pas. Vous savez, il y a une dissociation entre le monde qu'on nous proposait et la réalité de ce qu'on voyait. Vous aviez d'un côté les guitares électriques qui commençaient à sortir des housses, et de l'autre côté les vins de messe avec les clochettes. Et là, vous dites, il y a un truc qui va pas. C'est pas possible, il y en a un des deux qui se trompe. Donc, moi, j'ai vécu dans un monde qui n'était pas le mien, avec des parents qui auraient pu ne pas être les miens, mais que j'aimais forcément, puisque c'était comme ça, quoi. J'ai eu des conversations avec ma mère sur ce sujet, justement, sur le fait, est-ce qu'on doit aimer ses parents? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que l'amour est une chose normale? Et ma mère était très fine, malgré son manque de, elle n'avait pas une éducation comparable à celle de mon père, par exemple, mais c'était quelqu'un qui était capable, justement, de me parler de ces choses-là et de me les faire comprendre. Et j'avais un certain bonheur à discuter avec elle et apprendre tout ça. Alors elle me le disait dans sa langue, mais je comprenais sa langue. Alors que je comprenais pas celle des jésuites, je comprenais pas celle de mon père, qui était faite d'autorité, bien sûr. Et c'était un monde perdu, quoi. Moi, j'étais perdu, j'étais un gosse. Et j'ai longtemps fermé ma gueule, parce que je devais pas contrarier mon père, parce que les jésuites me filaient des danses phénoménales si je suivais pas la ligne, parce qu'il y avait des punitions corporelles, parce qu'il y avait des humiliations, parce que les parents suivaient la ligne jésuitique, puisqu'ils nous y mettaient. J'étais mal, quoi. J'étais mal dans ce monde-là.
Et enfant, Jean-Paul Dubois, à quel métier, quel avenir vous destinez ?
Le sport. Je voulais être sportif, je voulais être skieur professionnel, je voulais être tennisman professionnel, je voulais être rugbyman professionnel, je voulais être un type tout ce que je n'étais pas. Moi, j'adorais le sport. C'est-à-dire, le seul moment de bonheur, vraiment, quand vous me dites ça, ce que je vois, c'est moi en train de courir dans un champ, sans fin, jusqu'à crever de ne plus avoir de souffle. C'est même pas être fatigué, c'est ne plus pouvoir respirer, aller au bout, aller au bout de son corps, être usé de son corps, en profiter, jouer, jongler. C'était un truc qui était extraordinaire, le corps, l'usage du corps. Je garde ça. Et je voulais être un type qui vit pleinement avec son corps.
Mais il y a la musique aussi.
Ah, la musique, oui. Mais l'Onyx, c'est venu plus grand. Je dois avoir 14 ans. J'avais 14 ans, on a fait notre premier groupe qui s'appelait le Famous Multicolor Contorsionniste Elastique Rock Band. Je vous le refais. Famous Multicolor Contorsionniste Elastique Rock Band. Qui était la dégénérescence, entre guillemets, ça lui plairait si je disais ça, du groupe de mon père qui s'appelait le fameux multicolore contorsionniste élastique Jazz Band. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. J'étais mauvais. Enfin, j'étais pas... J'aime jouer, je suis mauvais. Mais je connais pas la musique, je connais pas le solfège. Je joue tous les jours. Je joue des morceaux que je joue dans l'instant, mais que je serais incapable de rejouer de toute ma vie. Je repère les accords possibles et j'évite les dissonances à l'œil. C'est-à-dire, je sais que si j'associe telle note sur le clavier, majeur ou mineur, ça va donner quelque chose. Si j'en mets une autre, à l'œil, ça ne va pas le faire. Donc, je suis nul. Et quand on jouait, j'apprenais comme un imbécile ce que je devais faire en comptant, mais c'est catastrophique. Et j'avais un copain qui me dit, quand je me plantais, je me disais, mais note-le. Alors, il faisait des sortes de tablatures pour piano. Donc, il fallait jouer à l'œil. Mais j'adorais ça, mais je préfère jouer seul.
Donc, au piano. Donc, vous rêvez sportif, vous rêvez musicien, vous êtes musicien, malgré tout, vous faites des études de sociologie, pourquoi ?
Ouais, la sociologie, je l'ai faite. Parce qu'entre-temps, il y a la politique, il y a mai 68. Mai 68, c'est une rupture totale avec le monde précédent dont on parlait. C'est la rupture de l'autorité, voilà, avant toute chose. Et là, j'ai 18 ans en 68. Donc j'ai eu mon bac grâce à mai 68, parce que il n'y avait pas d'épreuve écrite. Si j'avais eu des épreuves écrites, je n'aurais jamais eu le bac. Comme c'est de l'oral, et qu'à l'époque, les profs sont morts de trouille, et que tout le monde est mort de trouille, et ils m'ont donné le bac sans confession, mais vraiment donné. Ensuite, j'aimais bien le métier d'avocat. J'adorais ce métier. J'ai fait une année de droit, et la première année, je me suis rendu compte que c'était un repère de... du type qui ressemblait à mon père, quoi. C'était pas mon univers, c'était des gens de... vraiment d'une droite sévère, quoi. J'aimais pas ça. Et donc, je suis allé à l'inverse. J'oubliais ce métier. Sincèrement, j'aurais aimé être avocat. C'est un truc qui m'aurait plu. Je trouve ça très noble. S'il est fait proprement, c'est un métier élégant, je trouve, pour l'esprit, pour ce que vous avez en vous, quoi. Il y a quelque chose de bien là-dedans. Et j'ai fait de la sociologie parce que... il y avait toute l'extrême gauche qui était là, que j'aimais, que mes copains étaient anarchistes, que moi j'étais là-dedans, j'étais dans cette mouvance, j'étais heureux. Et je suis allé là-dedans par... J'aimais bien l'idée de la sociologie, et puis après j'ai déchanté parce que je comprenais rien. Parce que là, encore une fois, j'étais pas chez moi, j'étais chez moi politiquement, parce que il faut savoir que j'étais à l'université du Mirail et que l'enseignant d'extrême droite... En sociologie, le Mirail n'existait pas encore. Il y avait deux blocs, deux bâtiments. Au premier étage, il y avait la géographie. Au second, l'université, l'UER de sociologie. Et le mec, l'enseignant le plus à droite, il était au Parti communiste. Donc ça vous donne une idée du monde dans lequel on a vécu pendant des années. Moi, j'ai pas d'unité de valeur. Il y en avait 24, je n'ai pas passé une. Ça, c'était pour les profs, même pour eux, c'était indécent de nous soumettre à un examen, à nous évaluer. C'était culturellement impossible. Donc c'était un monde qui était formidable, c'était un truc qui était... Les gens se battaient, mais c'était... Comment dire, si on le soumet à la lumière du monde dans lequel on vit, ce n'est pas comparable. Il y avait une complexité et à la fois une grande fraîcheur. Complexité des idées. Moi je lisais l'International Situationniste depuis 66-67 à Strasbourg, quand ils étaient à Strasbourg. Et je me forçais à lire ça, et je comprenais peut-être 10% de ce que je lisais. Les livres de sociologie, c'était pareil. Alors je me suis dit que j'étais soit un imbécile total, ou que ces mecs étaient des génies. Je pense que la vérité se situe à mi-chemin. Et j'ai appris énormément. Tout ce que j'ai appris, il y a ma mère, après il y a José Arthur, il y a La Gueule Ouverte, et il y a Charlie Hebdo, Harakiri Hebdo, qui n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Le Pop Club, c'était l'ouverture au monde. Ça a commencé, j'avais 14 ou 15 ans. Ils m'ont appris tout ce qui était le monde, y compris José Arthur, qui se vantait de pouvoir d'inviter souvent José-Louis de Villalonga, qui était un acteur, dont il affirmait qu'il était le seul aristocrate à pouvoir rentrer à cheval dans les églises. Moi, vous voyez, c'est des trucs... Mais ça allait de ça, ça allait à l'extrême gauche, ça allait... Tous les anarchistes arrivaient là-dedans, les cinéastes, la nouvelle mouvance cinématographique, tout était là, quoi. Ça fourmillait. Il n'y a rien aujourd'hui qui soit comparable à ça. C'est-à-dire, c'est une écologie qui n'était pas punitive, mais qui était politique, réellement.
C'était le magazine qui annonce la fin du monde, c'est ça, hein, la gueule ouverte dans les années 70.
C'était infiniment politique, structuré. Et Charlie Hebdo, vous aviez Cavana, Reiser, Delfeuille de Thon, tous ces types qui faisaient des dessins. Moi, j'ai deux dessins à la maison de Reiser. C'est quand même le monde dans lequel on vivait. C'est un sanglier qui est en train de sodomiser un chasseur qui a tué la femme du sanglier. Et le sanglier dit au chasseur, t'as tué ma femme, tu la remplaces. C'est absolument horrible. C'est quand vous voyez le dessin de Reiser, c'est phénoménal, quoi. Et l'autre, c'est un type en short qui monte ses Jeux Olympiques, publicité interdite. Et on voit un type qui monte sur la première marche du podium, accrochez-vous, avec un short assez large, deux testicules qui pendent. Et sur la première, il y a R, sur la seconde, il y a France. Air France, voilà. Et donc, on vivait dans cet univers de dingue, quand même, qui était drôle, qui était extrêmement tonique. Et c'est des vitamines pour tout ce que j'allais vivre ensuite. Moi, j'ai une grosse dette envers tous ces gens-là, qui m'ont sorti de mon milieu pour me faire découvrir un monde que je ne soupçonnais pas. En plus, en province, on n'avait pas la même... Même si ça commençait à l'époque, on n'avait pas les mêmes opportunités qu'à Paris.
Merci beaucoup, Jean-Paul Dubois. Nous nous retrouvons demain pour parler de votre métier de journaliste.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral. Réalisation Jean-Philippe Navarre, une série de Corinne Renoux-Nativelle, disponible sur le site et l'application de Radio France.